comme Max a très bien dit vendredi, il n'y a pas de preuve historique qu'il soit né le 25 décembre il y a 2000 ans. Pourquoi pas, hein? C'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas ça ce qu'on est... on ne va pas débattre ça ici. Par contre, vu qu'on a déjà parlé de sa naissance, alors on va reprendre l'histoire 8 jours après sa naissance. Et là, dans l'Évangile selon Luc, que je vous rappelle que c'est un livre qui a été écrit vraiment par le souci historique de faire et de raconter tout ce que Jésus a dit et accompli. Notre petite histoire va surtout concentrer sur deux personnes que Joseph et Marie se sont rencontrées dans le temple. Et c'est un peu marrant parce que ça me donne le titre « On ne sait jamais qui on va croiser ». Justement, à Paris, quand on croise quelqu'un qu'on connaît, là, quand on regarde la possibilité statistique, on sait que ça ne peut pas être tout à fait une coïncidence. Justement, quand c'est quelqu'un qui, avec qui on doit partager quelque chose. Par exemple, je me rappelle, tout au début de l'histoire de notre église, il y avait une dame qui était très jeune dans sa foi, qui venait à la maison et qui étudiait la Bible souvent avec nous et était très fervente. Et bien aussi, très jeune dans sa foi, elle avait besoin de pas mal d'encouragement. Ben, un jour, en prenant le métro, les portes s'ouvrent et devinez qui entre dans le même wagon que nous. Tout à fait aléatoire. Ou non. Je pense que, et elle aussi, elle était frappée par les circonstances. Et bien, elle aussi, elle a dit que oui, effectivement, le Seigneur a fait ça. Quand ça arrive, franchement, c'est fort. On ne sait jamais qui on va croiser. Et on va voir, en fait, donc ces deux personnes qui croisent, si vous voulez, la famille sainte, Joseph, Marie, Jésus. D'abord, un homme qui s'appelle Siméon, et ensuite, une femme qui s'appelle Anne. Donc d'abord, on est en Luc, chapitre 2, et nous prenons à partir de verset 21. Et je vais lire. Quand le huitième jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur. Et offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Alors, ce qui est important peut-être à retenir dans cette petite phrase, c'est en fait, tout est fait pour montrer sa pureté. Il faut garder dans le contexte global. Luc est en train de nous présenter le Messie de Dieu. Et donc, s'il est réellement le Messie d'Israël, le roi d'Israël, il y a quand même quelque chose, quelques standards à quels il faut adhérer. Même son obéissance à la loi, bien sûr, ça doit être passif, enfin, pas passive, si, passive et active, mais parfaite. Et ce que nous avons ici, c'est son obéissance passive à la loi. Les choses qu'il ne peut pas changer lui-même, pour lui-même. Il est juste un petit bébé. Mais puisque nous parlons du Fils de Dieu, évidemment, il y a la main de Dieu qui dirige tout. C'est Dieu qui est au contrôle. Dieu qui s'est fait homme. La deuxième personne de la Trinité, bercée dans les bras de sa mère selon la chair. Enfin, franchement, c'est absolument hallucinant, enfin, quand on pense aux profondeurs de ce qui est vraiment présenté. Tout se passe exactement comme il fallait pour un Israélite sous la loi. Absolument. Encore plus pour le Messie. Il est circoncis, 8e jour, présenté au temple, mais c'est aussi présenté à la nation. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces sacrifices? Les sacrifices ne sont pas pour la pureté de Jésus. Il est Dieu. Il est parfait, né sans péché. Donc, ce n'est pas pour lui que le péché, enfin, pour ses sacrifices sont faits. On trouve un peu bizarre que ça serait donc deux pigeons. Des pigeons, donc, c'est assez facile à attraper, effectivement. C'est bien, le Seigneur fait cela pour la loi, mais aussi pour marquer une chose. C'est la pureté de Marie qui est en jeu. Jésus est déjà pur, mais Marie, elle est une simple humaine. Elle est pécheresse, comme nous sommes pécheurs, bien évidemment. C'est lui qui est le parfait. Mais ce n'est pas... Ce qui est peut-être le plus important dans cette pureté passive de Jésus, ce qu'il ne peut pas contrôler, c'est que là aussi, il est présenté comme un nourrisson, on dirait le brebis, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. N'oubliez pas que les brebis, les moutons qui sont élevés pour le sacrifice au temple sont élevés dans la région de Bethléem, là où il est né. Et là, on l'amène, tout est contrôlé, entre guillemets. Et c'est important pour nous de voir justement que dès le départ, tout est prêt, il est pur, il est parfait. Et son nom. Son nom aussi est très important. Son nom qui veut dire Yahvé sauve. Tout est aligné parfaitement dans ce sens pour marquer la présence du roi. Et puis, dans ce moment où tout se fait exactement comme il faut, le sacrifice, la circoncision, du coup, le Saint-Esprit entre aussi en jeu. Ce qui est formidable dans ce passage, c'est que nous avons un passage trinitaire. Il y a, évidemment, il y a Dieu, le Père, dans les coulisses, mais le texte va nous parler maintenant du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité qui agit d'une manière très particulière. Et je reprends à partir de verset 25, et je vais lire jusqu'au verset 31. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint qui était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il va au temple, poussé par l'esprit. Et comme mes parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Que tu as préparé devant tous les peuples. Waouh! Quelle rencontre! Fantastique! Il n'y a rien dans cette scène qui devait attirer le regard de Siméon. Certainement, il y avait d'autres petits garçons qui se faisaient circoncire le même jour dans le même lieu. Qu'est-ce qui fait remarquer celui-ci que d'autres? Statistiquement, il est même possible qu'il y avait d'autres qui s'appelaient même Jésus qui fut aussi circoncis ce jour-là. Qu'est-ce qui fait remarquer? Le Saint-Esprit agit dans cet homme. Trois fois dans ce petit paragraphe que je viens de vous lire, le Saint-Esprit est mentionné. Nous savons que Luc est aussi dans son deuxième livre, Actes, il parle justement du Saint-Esprit et son œuvre. Et ça enseigne beaucoup sur son action. Dans ce passage aussi, nous avons quand même des renseignements comment le Saint-Esprit fait ce qu'il fait dans la vie. L'homme était déjà à Jérusalem. On dirait qu'un bateau est toujours facile à naviguer lorsqu'il est en mouvement. Il était déjà dans le temple. Et Dieu l'a dirigé. Il était juste, il était pieux. Il était déjà dans cette mentalité. En fait, vu qu'il est vieux, ça montre que ceci est l'œuvre de sa vie. Nous avons tous un but de notre vie. Hein. Nous sommes créés pour glorifier le Seigneur. Pour les plus chanceux parmi nous, il y aura un événement grand comme ceci. Bah, lui, il a son nom dans la Bible quand même. C'est fantastique, hein? C'est vraiment les auteurs. Mais toute sa vie est vécue pour ce moment. On ne sait pas quand il a eu cette parole. Imaginons que ça a été chuchoté à votre oreille ou vous avez eu ce sentiment. Enfin, quelle prétention! Quelqu'un aurait dit, justement, « Ah bon, tu vas voir le Messie, ok. » Ou peut-être il était confiant pendant les années qu'il était jeune. « Oui, je vais voir le Messie. » Puis il y a des gens qui passent, le temps passe. Et... Puis les vieux. « Je ne vais pas mourir avant de voir le Messie. » Ça fait longtemps d'attendre. Justement, est-ce que vous avez attendu pour une chose plus que... un mois, un an, vous avez eu peut-être des choses dans votre cœur, vous savez que le Seigneur vous a donné ça à cœur, mais les années passent et ça n'arrive pas. Franchement, c'est dur. Au bout d'un moment, on se pose des questions, c'est tout à fait normal, nous sommes pécheurs, nous sommes prêts à douter. Et le texte ne dit rien, mais on peut imaginer le même scénario chez cet homme. Mais il voit enfin le Seigneur et le Saint-Esprit est là pour le guider. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que ce n'était pas il y a 2-3 ans peut-être où il s'est trompé de garçon. Peut-être même, vu la théologie de l'époque, il n'attendait même pas un bébé. Il est fort possible qu'il attendait plutôt un homme. Qui sait? Mais là, quand il voit ce bébé, son cœur est tellement comblé à voir la chose pour laquelle ce Simeon est presque né. Et il tient ce bébé dans ses bras, le texte nous dit. Et puis, il dit qu'il peut enfin mourir. Il doit être fatigué, le pauvre. Enfin, il est content. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? Il y a des choses très importantes, je trouve, pour que nous pensions à cette œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. D'abord, en ce qui concerne notre relation avec Jésus, le Saint-Esprit nous pousse toujours à adorer Jésus. Ça, c'est la base des choses. Le Saint-Esprit aussi peut... nous donner une parole. Nous peut justement donner cette inclination, ce sentiment de quelque chose qu'il va faire. Il peut nous diriger dans le silence sonore, c'est-à-dire que personne d'autre n'entend rien. Mais nous savons sans aucun doute que c'est lui qui nous dirige. Et c'est important parce que parfois il peut nous dire quelque chose et cette chose qui nous met dans le cœur, c'est peut-être pas pour tout le monde. C'est peut-être pour notre propre édification, pour que nous attendions sur lui. Nous savons que le Seigneur, il est toujours plus intéressé par notre caractère et il n'y a rien qui l'empêche à développer notre patience pour que nous le glorifions par une vie qui reflète cette patience, n'est-ce pas? Deuxièmement, le Saint-Esprit agit aussi d'une manière spéciale parfois. Nous savons que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans la famille du Christ, nous sommes baptisés donc dans l'Église, nous faisons partie de l'Église universelle de Jésus-Christ, de la communauté des rachetés qui seront avec lui pour toujours. Mais le Saint-Esprit distribue aussi les dons. Il vient sur nous pour des moments particuliers. En 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11, par exemple, nous lisons ceci. Ah, je suis en 2 Corinthiens. En 1 Corinthiens, chapitre 12, tout change si on change de livre. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11, nous lisons un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun en particulier comme il le veut. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous donne au moins un don, au moins un, peut-être même plus. La liste est longue et on peut juste appuyer sur le passage qu'on a ici. Là, il parle des miracles, il parle des guérisons, il parle des langues, il parle d'interprétation des langues, il parle de la prophétie. Dans d'autres passages, il parle de l'administration, il parle de l'évangélisation. En fait, c'est assez divers ce que le Saint-Esprit fait. Mais c'est lui qui distribue selon sa volonté. Pourquoi ? Toujours pour la même raison, pour que Dieu retient toujours la gloire. Et ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est spécifiquement talentueux dans un environnement. Par exemple, quelqu'un qui est prof, qui fait bien son boulot de prof et qui enseigne, je ne sais pas, les maths ou les sciences sociaux, même à l'université de la Sorbonne, Sciences Po même, enfin voilà, visant grand. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est équipé par le Saint-Esprit pour l'enseignement de la Bible. En fait, c'est important pour que nous réalisons que les dons viennent de Dieu. Alors, peut-être ce prof, oui, peut-être il serait effectivement équipé par le Saint-Esprit pour enseigner. Mais les talents naturels ne sont pas les dons de l'Esprit. Deux choses différentes. Hein? Alors, pour cela, il est nécessaire pour nous, donc, de essayer de, en fait, si on est dans une situation et on a justement cette inclination, essayer et prier pour une malade, par exemple, si Dieu met une ou un devant nous. Ou si il nous donne une parole et ça semble assez étrange, ça vient donc de la parole, une parole donc prophétique. Il faut essayer de le dire. parce que cette parole n'est pas pour vous, c'est pour l'autre. Et puis, ainsi de suite. Ou bien, si vous avez les dons de l'administration, ou si vous avez les dons de la générosité, ou autre chose, la liste est longue. C'est l'esprit qui distribue comme il le veut. Et ensuite, il faut exercer dans l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou un symbole qui retentit. Et voilà peut-être la grande différence entre notre prof supposé à Sciences Po et quelqu'un qui peut-être n'ait pas fait grand-chose dans le domaine des lettres, mais qui est animé par le Saint-Esprit, appelé à prêcher. La différence, c'est que l'amour, parce que c'est le Saint-Esprit qui déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu, selon Romains chapitre 5, verset 5. L'amour est justement ce qui distingue entre quelqu'un comme Bill Gates et Warren Buffett qui donnent des millions de dollars dans des œuvres caritatives et la petite veuve dans le temple qui n'a donné que 2 centimes que Jésus remarque. Il y a un qui est un don de l'esprit qui exerce la générosité animée par Dieu et l'autre qui fait tout simplement ce qu'il a naturellement en lui de le faire. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Franchement, Dieu merci qu'il y a des milliardaires qui donnent de l'argent. Mais je me réjouis encore plus pour cette petite femme parce qu'elle agit dans l'esprit et fait des choses incroyables. Dans cela, il est intéressant que, dernièrement, Paul dit qu'il faut aspirer aux dons les plus excellents, notamment la prophétie. Même Moïse a dit au bout d'un moment, lorsque les gens commençaient à prophétiser sur lui, il a dit, si seulement tous étaient remplis du Saint-Esprit pour qu'ils prophétisent tous. Voilà un passage pour réfléchir. Et aussi pour nous marquer que la prophétie ne se résume pas seulement à la prédication du dimanche, mais qu'elle est beaucoup plus large. C'est justement dans cette idée que j'aimerais continuer notre histoire en Luc. Parce que Simeon maintenant va exercer une parole prophétique sur Marie. Luc chapitre 2, verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici. » Cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient rêvées. Joseph et Marie, donc, ils étaient évidemment dans l'admiration. Pourquoi ? C'est pas parce que ils se doutaient de la venue du Christ. Attendez, hein, ils étaient tous les deux avertis par les anges. Il y a 7 jours, ils ont reçu les bergers qui arrivent en plein nuit et qui basculent tout. Non, ils avaient tous les confirmations. Non, ils savaient qui ils le sont. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas un moment où Joseph s'est trompé en pensant que c'est lui le père. Non, il était sûr et certain que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, la confirmation, l'admiration, ce n'est pas pour cela. Certainement, l'admiration, c'est parce que qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il dit, là? Comment il nous a repérés dans cette foule? On est dans un temple. Ah, le Saint-Esprit est à l'œuvre. La prophétie porte certainement sur ce que Jésus dit lui-même en Luc 12, 51. Je ne pensais pas que je suis venu pour porter la paix, mais pour porter une épée, pour provoquer la division, même dans la famille. Il y avait effectivement de la division entre la famille. Il y avait les frères de Jésus qui ne voulaient pas croire qu'après sa résurrection. D'autant plus que c'est Marie qui était au pied de la croix. Oui, elle a vu des choses et elle était certainement touchée profondément à voir ce bébé grandir, comme toute maman. Avoir la joie de voir le Fils de Dieu marcher, puis parler. Mais un moment venu, il n'aura plus besoin d'elle. Et ce moment arrive beaucoup plus rapidement que pour les autres. Et les déchirements, sans doute, étaient durs. Parce que c'est lui, le sauveur de son âme, comme la nôtre. Puis, elle verra son fils prendre les poids du monde lorsqu'il meurt sur la croix. Mais on a bien deux rencontres. L'autre est beaucoup plus rapide, mais c'est aussi intéressant. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge fort avancé après avoir vécu 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint, elle aussi, à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. Pour son époque, elle a eu une vie comblée, mais tragique aussi. Si elle restait tout le temps au temple, c'était parce qu'il y avait cette tragédie dans sa vie. Elle est veuve et, tristement, devenir veuve n'arrive jamais d'une manière douce et accueillante. Donc, comment est-ce qu'elle a réagi à cette tragédie dans sa vie? Elle est de la tribu d'Asser. Donc, elle n'a pas, si vous voulez, une vocation naturelle à être dans le temple. Mais elle est là. Si vous voulez, c'est même le contraire de ce que nous avons vu il y a quelques semaines avec, enfin, quelques mois en fait, avec Thomas. Lorsque Thomas n'était pas avec les autres, et puis le Seigneur s'est présenté, là, elle était toujours dans le temple lorsque le Seigneur passe dans les bras de Marie. Elle était comblée. En fait, elle est l'exemple d'une vie qui, peut-être aux yeux du monde, n'a pas pu faire grand-chose. Comme tous, elle avait sans doute des rêves, comme mariée, surtout à l'époque. Elle aurait voulu avoir beaucoup d'enfants. Mais si elle avait ses enfants, alors elle n'aurait pas pu vivre tout ce temps dans le temple. Il fallait qu'elle s'y occupe. Quelque part, ce qui était une histoire de tristesse est devenue pour elle une source de bénédiction, sans doute pour d'autres aussi. Si elle ne faisait rien d'autre que rester dans le temple, prier, imaginez ce qu'elle a pu faire avec sa vie, les vies qu'elle a pu aussi encourager et toucher. Elle était riche, même si, aux yeux du monde, elle n'était peut-être pas grand-chose. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi, comment Dieu fait les choses? Comment il est dit, selon 1 Corinthiens, il rend cette sagesse du monde folle par son évangile. Le royaume de Dieu, quelqu'un a dit, est un royaume sens inverse comparé à ce monde. Car les grands de ce monde sont petits, souvent, aux yeux du royaume, et vice-versa. Elle termine forte. Elle voit le Messie. Elle chante et dit à tout le monde, « Le voici !» Et l'exemple que nous avons pour elle, c'est « Voici une dame qui a accompli sa mission. » Tout comme Siméon. Nous sommes aussi choisis pour glorifier le Seigneur. Donc comme Anne, comme Siméon, je pense que nous avons peut-être un patron d'une bonne année, une année 2022. N'est-ce pas? Nous aussi, qui sommes remplis du Saint-Esprit, cherchons à être encore remplis pour exercer nos dons de l'Esprit et aussi pour parler du Christ autour de nous, pour sa gloire. Parce que il y a des gens autour de nous qui sont dans des difficultés, qui se posent beaucoup de questions. Et franchement, on ne sait jamais qui on va rencontrer, n'est-ce pas? Prions. Seigneur, merci pour ta parole, cette grâce que nous avons de te connaître, cette grâce aussi d'avoir ton esprit en nous et qu'il vient même sur nous nous équiper pour ton œuvre dans ce royaume en ce moment. Seigneur, nous sommes heureux par ce que tu fais. Nous sommes heureux de te connaître aussi. Et nous te demandons maintenant, tout à la fin de cette année, de nous remplir à nouveau. Que tu déverses ton amour dans nos cœurs. Que tu fais naître dans nos vies des dons de l'Esprit. Ce dont nous avons en tant qu'Église locale pour accomplir la tâche que tu as mis devant nous cette année. Oui, Seigneur, nous te demandons pour la prophétie, mais aussi pour tous les dons, qu'ils soient des langues, des interprétations, des miracles, de l'administration, la prophétie, de la générosité, des œuvres, des services, l'évangélisation. Seigneur, si tu as quelque chose pour nous, nous voulons le recevoir par la foi. Ne nous prive pas, Seigneur, nous prions. Mais comme tu es généreux, comme tu es celui, Jésus, qui est mort pour nos péchés, pour nous faire entrer, et celui qui a déversé ton esprit sur ton Église, nous venons à toi et nous prions. Remplis-nous à nouveau pour cette année. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.